peuple entre les mains d'un ennemi, vendit, dit le texte, c'est commercial, délibérément, intentionnellement, Dieu livre son peuple entre les mains d'un ennemi pour que son peuple puisse revenir à son bon sens, se repentir et retrouver une relation restaurée avec Dieu. Donc Dieu livre entre les mains d'un ennemi. Ensuite, le peuple crie à l'Éternel, parfois dans la repentance, parfois dans la lassitude. Mais Dieu, fidèle, bon, miséricordieux, intervient et il suscite un juge, un libérateur, un sauveur pour son peuple. Mais on ne peut pas lire le livre des juges sans se poser la question, mais est-ce que ce livre nous explique le pourquoi des dérapages, des éloignements? Est-ce que finalement c'est une fatalité? Cela arrive de toute manière? Est-ce qu'il faut tout simplement donc dire qu'est-ce sera, sera, Inch'Allah, ce que Dieu veut? Ou est-ce qu'il y a dans ce livre des raisons qui expliquent l'égarement du peuple? Je crois que oui. Et juste avant d'aborder le récit de Gédéon, je vous propose de regarder ce que dit le compilateur de ce livre pour expliquer ces échecs répétitifs. Trois idées qui se dégagent rapidement dans les deux introductions. Donc, dès le départ, le compilateur nous explique le pourquoi du dérapage. Toute première raison qui est donnée dans le texte, mais ce n'est pas dit explicitement, mais c'est implicite, mais je l'explique. C'est le compromis. Le compromis. Donc on va essayer de définir ce qu'est le compromis dans la vie chrétienne. Mais si on lit ce premier chapitre, cela commence bien, à partir du verset 1, où il y a cette assemblée générale de tout Israël, et la question est posée à l'Éternel, qui de nous montera le premier pour combattre les Cananéens. Verset 2, l'Éternel répond, Judas montrera en premier lieu. J'ai livré le pays entre ses mains. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 19, tout va bien. Judas part en campagne avec Siméon et il remporte un certain nombre de victoires, les victoires assez importantes. Et puis, nous arrivons à ce verset 19, assez énigmatique. L'Éternel fut avec Judas, qui se montra ou qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Je reviens sur ce verset. Mais à partir du verset 20 et suivant, nous constatons finalement échec sur échec. Verset 21. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas. Et puis, le verset 27. Manassé ne déposséda pas. 29. Éphraïm ne déposséda pas. 30. Zabulon ne déposséda pas. 31, Aser ne déposséda pas. 33, Nephtali ne déposséda pas. 34, les Amoréens repoussaient dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissaient même pas descendre dans la vallée. Et nous constatons, à partir du verset 21 du chapitre 1, échec sur échec sur échec. Et pourtant, Dieu avait dit dès le départ, il faut exterminer. Mais, malgré le facteur temps, nous ne voyons dans aucun de ces versets qu'il y a eu une tentative intentionnelle de la part d'Israël, de ses différentes tribus, de déposséder les Cananéens. Encore si on avait lu
Manassé avait livré un combat féroce contre les habitants de ce territoire et a remporté quelques victoires, comme dans les 18 premiers versets, ça nous aurait rassurés. Mais c'est tout simplement le constat. Ne déposséda pas, ne déposséda pas, ne déposséda pas. Et nous avons ce verset 19. L'Éternel fut avec Juda donc, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put finalement, il ne put déposséder les habitants de la vallée. Comment vous mettez ensemble ces deux idées? L'Éternel fut avec, mais il ne put. Cela va à l'encontre de notre triomphalisme évangélique, où nous sommes parfois très sélectifs dans notre manière de lire ou de choisir les versets de l'Écriture. Je peux toute chose par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Notre théologie a du mal avec cette idée. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Et il faut, à mon sens, introduire quelques notes de réalisme dans notre réflexion par rapport à l'étape de consolidation dans la vie chrétienne. Nous avons dit qu'il y a toujours deux étapes, conquête, occupation, consolidation, conversion, transformation. Justification, sanctification. Et dans cette étape de consolidation, c'est là où nous en sommes tous actuellement, c'est l'étape la plus difficile. Et parfois notre idéalisme évangélique, notre triomphalisme, nous écrase et nous élimine du combat. Parce que nous n'avons pas compris ce que ce verset veut dire. Donc la première chose qu'on peut en retirer comme leçon, c'est qu'il y a toujours le facteur temps dans l'œuvre de Dieu. Dieu est avec nous, mais cela ne veut pas dire que du jour au lendemain, nous allons remporter toutes les victoires sur l'ennemi. Ce que ce texte ne dit pas, c'est que Juda n'a pas essayé. Ou ce texte ne dit pas que Juda a baissé les bras, a abandonné la partie. En fait, le compromis n'est pas une désobéissance ponctuelle, parce que là, nous tous, nous désobéissons. La désobéissance, c'est devant le combat, devant la consolidation, c'est de baisser les bras, de se retirer du combat, de dire que ce n'est pas possible. Ou de se trouver des excuses, style, mais si tu connaissais mes parents et mes grands-parents, tu ne serais pas étonné de mon comportement à moi. Et cela, c'est l'incrédulité. C'est nier l'efficacité de l'Évangile. Et cela ne se trouve pas dans ce verset. Judas n'a pas baissé les bras, n'a pas abandonné la partie, mais il s'est trouvé à un moment donné devant un ennemi plus fort. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas continué à combattre. Parce que le facteur temps veut que Dieu, dans sa pédagogie, ne va pas éliminer toutes les difficultés, tous les problèmes et tous les combats immédiatement et de suite. Dieu laisse délibérément en place des obstacles, des épreuves, des combats et des difficultés pour nous former. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Donc je répète, un compromis n'est pas une désobéissance ponctuelle, mais c'est le fait de se retirer, de dire que ce n'est pas possible. Au risque de vous choquer, je vous dirai très honnêtement que probablement, plus des trois quarts des chrétiens dans nos églises évangéliques vivent dans la défaite. Ils ont abandonné le combat. ils vivent avec. Mais finalement, ils disent, ou ils se raisonnent, c'est trop fort pour moi. Je n'arrive pas. Quelles que soient les convoitises, les séductions, quels que soient les désirs, finalement, qui les dominent, ils baissent les bras et ils disent que ce n'est pas possible. Peut-être le texte le plus rapproché dans le Nouveau Testament est celui que vous connaissez bien, de Paul, de Timothée 12, l'écharde dans la chair. Et dans ce texte, Paul raisonne, estime que s'il n'avait pas cette écharde, il ne dit pas ce que c'est. Donc on ne va pas spéculer là-dessus. Il y en a qui pensent que c'est à faire avec les yeux. Depuis que je fréquente l'Assemblée de La Rochelle, je pense que c'est problème plutôt des dents. Mais peu importe. Hein. Il y avait un problème chez notre ami Paul. Écharde dans la chair. Il ne dit pas ce que c'est. Si, il donne un indice. C'était un ange de Satan pour le souffleter. Donc, il reconnaît qu'il y a là un ennemi, une activité de l'ennemi. Et comment est-ce que Paul y raisonne ? Il dit, si seulement je n'avais pas cette difficulté, je pourrais d'autant plus facilement servir le Seigneur. Je serais libre, finalement, de ces contraintes, de ces liens, et je pourrais donc mieux servir. Et par trois fois, Paul supplie le Seigneur de le libérer de cette écharde. Et finalement, le Seigneur lui dit, dans mon langage paraphrasé, « Tais-toi, Paul, ma grâce te suffit. » Parce qu'il faut que tu apprennes que ma puissance ne peut se révéler que lorsque tu apprends à être totalement dépendant de moi. Et toute la vie de la consolidation dans chacune de nos vies, c'est de nous ramener à la case départ pour se rendre conscient de notre dépendance. La vie chrétienne n'est pas une vie finalement qui monte de manière exponentielle et où on surfe sur les difficultés. La vie chrétienne est une vie où Dieu nous ramène constamment à une reconnaissance de notre dépendance, notre faiblesse, notre fragilité. Et Dieu dit à Paul, tais-toi. Il faut que tu apprennes à vivre ta vie chrétienne, non de ta propre force, mais de la mienne. Un ange de Satan pour le souffleter. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Dans ma vie chrétienne, avec le parcours que j'ai fait, je suis chrétien maintenant depuis presque 60 ans, non, presque 70 ans. Mais dans mon parcours, j'ai aussi eu les hauts et les bas, les combats et les luttes. Et dans ma vie, j'ai des fragilités. Ce que j'appellerais à la limite des domaines où Satan il a une emprise dans ma vie. Attention, je ne suis pas en train de parler de possession ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis pas en train de dire maintenant, il faut que vous deveniez tous des exorcistes pour me libérer. Non, je suis en train de parler d'une emprise, d'une vulnérabilité. D'un domaine où, à cause de mon parcours, je suis particulièrement fragile. Et où je sais, et où Satan sait, que lorsqu'il met le doigt dessus, je suis beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable. Et il m'est arrivé dans mon parcours, de dire, mais Seigneur, si seulement il n'y avait pas cette emprise dans ma vie, mon service serait d'autant plus libre. Et pourtant, c'est justement à cause de cette emprise que Dieu peut œuvrer dans une vie. C'est dans cette faiblesse, dans cette fragilité, dans cette vulnérabilité, dans ce constat, oui, Dieu, tu es avec moi, mais je ne peux pas tout seul, que Dieu agit. Et nous avons besoin de reconnaître les emprises de l'ennemi dans notre vie, les domaines où nous sommes particulièrement vulnérables, faibles, fragiles, et où l'ennemi peut. L'illustration, vous prenez une allumette et vous le cassez en deux. Vous pouvez prendre les deux bouts et les coller ensemble. Mais lorsque vous exercez la pression à nouveau sur cette allumette recollée, l'allumette, il va casser au même endroit. Parce qu'il y a une fragilité. Et ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Et le compromis, c'est devant ces fragilités et ces emprises de l'ennemi, dire « c'est pas possible ». Les désirs, les séductions et les convoitises sont trop fortes, je baisse les bras. À quoi bon? Et puis là, on verse dans le laxisme, et où finalement, on a amoindri la gravité du péché, parce qu'on est dans un âge où le peuple évangélique a trop dans la bouche la grâce bon marché de Dieu, et où finalement, on vit en pensant à la limite que le péché met en avant la grâce de Dieu. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Et le compromis, c'est de baisser les bras dans ces combats que nous menons tous. Et puis nous arrivons à une deuxième raison, au chapitre 2, où, à partir du verset 6, Josué, il renvoie le peuple en disant « Maintenant, l'étape de l'occupation est terminée. Maintenant, allez prendre possession de vos territoires respectifs. » Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, tout le temps des anciens qui survécurent à Josué, qui n'avaient pas vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Et, verset 10, « Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres, décédée, et il s'éleva après elle, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. » Le compromis dans la première génération, c'est-à-dire une génération qui baisse les bras, une génération qui ne marche pas dans cette idée du combat avec le facteur temps, cette génération-là va engendrer une génération qui ne connaît pas l'Éternel. Inévitablement. Parce que la génération qui suit, une génération qui finalement a baissé les bras, va observer et dire « l'Évangile, ça ne marche pas ». L'Évangile, c'est finalement tout simplement une assurance tout risque pour aller au ciel. Mais ici sur terre, ça ne change rien du tout. Et moi, j'ai grandi comme ça jusqu'à la fin de mon adolescence. À observer une génération qui disait la vérité, mais qui ne vivait pas cette vérité. J'ai vécu ça. Et ça m'a terriblement découragé. Jusqu'au moment où j'ai rencontré un homme qui a prêché un message qui m'a convaincu, l'Évangile, ça s'en marche. Parce qu'une génération qui vit dans le compromis, qui baisse les bras, va produire une génération qui ne connaît pas l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ah, ils observaient les rites. Il y avait encore le tabernacle. Ils pratiquaient le sacrifice. Ils faisaient toutes les offrandes prescrites. Rien ne manquait au rituel, à la liturgie, à la forme. Mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Il n'y a rien de plus dramatique d'une génération qui vit sur les acquis de la connaissance biblique sans connaître l'Éternel. Il n'y a rien de plus dramatique. Une première génération qui suit et qui marche, et une deuxième génération qui vit avec les acquis, mais qui ne connaissent pas l'Éternel. Et qu'est-ce qui fait la différence? Mais la différence est là, au verset 7. C'est une génération qui n'avait pas vu toutes les grandes œuvres de l'Éternel. À 19 ans, j'ai rencontré Werber, le fondateur d'OM. Et je dis, cet homme-là, il vit ce que je veux. J'ai vu. Et pendant ces premières années, avec OM, où je donnais toutes les vacances en tant qu'étudiant pour venir en France, je dis, ça c'est la vie chrétienne que je veux. J'ai vu. Chaque génération ne peut pas vivre avec une connaissance de deuxième main de l'Évangile. Chaque génération a besoin de voir l'Éternel à l'œuvre. Et lorsque nous prions pour nos enfants et pour nos petits-enfants, il ne s'agit pas de prier pour qu'ils soient intellectuellement convaincus de la vérité. Il faut prier pour qu'ils voient l'Éternel, qu'ils le voient à l'œuvre. Et on a besoin de cela. Et en troisième lieu, nous arrivons donc au chapitre 3. Et finalement, la troisième raison qui explique ces dérapages en Israël, c'est qu'il y avait toute une génération qui ne voulait pas combattre. Verset 3, verset 1, voici les nations que l'Éternel laissa en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. La tribu de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé devaient partir de l'autre côté du Jourdain pour conduire comme fer de lance tout Israël dans les combats contre les Cananéens. Ils pouvaient s'établir à l'est du Jourdain avec leurs terres, leur bétail, mais à ce prix-là, vous menez dans les combats après. Et ils sont partis. Et ils sont rentrés sur la terre. Est-ce qu'ils avaient les permes à l'époque? Rien n'est dit. Est-ce que parfois ils avaient les autorisations partout? Rien n'est dit. Mais ils sont rentrés finalement 7 ans plus tard pour voir leur famille et reprendre leur terre. Aujourd'hui, on veut tout faire pour éviter les combats. Hein. Et dans nos groupes de jeunes, trop souvent, alors c'est vrai, c'est un jugement de valeur qui vaut ce que ça vaut. Mais trop souvent, nos activités dans les camps, colonies, tournent autour des distractions plutôt qu'autour, finalement, de préparer nos jeunes pour le combat. Il y a quelques semaines, j'étais à l'Institut. Ils m'ont demandé de faire un cours un peu particulier. Et suite à ce cours, il y avait un temps de questions-réponses. Et les étudiants m'ont demandé, mais qu'est-ce qui change au point de vue formation de serviteur de Dieu aujourd'hui de ton temps? Donc déjà, ils m'ont mis dans l'âge médiéval. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la formation des serviteurs de Dieu? Il n'y a rien de fondamentalement. Les cours, j'espère, sont les mêmes. Parce que s'ils ne sont pas les mêmes, il y a un problème. Donc les cours, probablement, c'est les mêmes. Pourtant, il y a une chose qui doit changer. Parce que quand moi je me suis fait former pour l'œuvre de Dieu, je me suis fait former dans un contexte où il n'y avait pas vraiment une hostilité face à l'Évangile, où on pouvait évangéliser. C'était encore le temps où on pouvait faire le porte-en-porte, où on pouvait faire les plein air, où on pouvait inviter les Billy Graham pour les campagnes d'évangélisation. Mais aujourd'hui, il y a quantité de choses qu'on ne peut plus faire. Donc il y a une différence. Et la différence est la suivante pour vous, jeunes étudiants. Si vous voulez vous engager dans l'œuvre de Dieu et être fidèle, ce à quoi vous devez vous préparer, c'est de vous retrouver devant les tribunaux et en prison. J'étais sur la frontière de la Chine il y a quelques années pour faire une retraite pour tous les missionnaires expats qui travaillent en Chine avec leur métier. Et lors de cette retraite, il y avait un vieux pasteur chinois présent. Et il était aussi directeur d'un institut, enfin plusieurs instituts. Et on s'est mis à échanger, et dans cette province où il travaillait en Chine, il avait plus de 10 000 étudiants dans les écoles bibliques clandestines. Et il m'a posé la question, quel est le premier cours que tu donnes aux étudiants à Genève? Alors, je dis, mais écoutez, nous avons des jeunes qui vivent dans un même bâtiment, garçons et filles, il y a une certaine promiscuité. Donc le premier cours que moi je donne en début de chaque année, c'est fréquentation, sexualité et ainsi de suite. Parce qu'il faut simplement les faire appréhender les difficultés devant lesquelles ils vont se trouver pendant cette année. Bon, intéressant, disait-il. Et donc, évidemment, je lui ai posé la question, et quel est le premier cours que vous donnez? Il m'a dit, le premier cours que nous on donne à tous nos étudiants, plus de 10 000, premier cours, c'est comment résister à la torture. Comment faire face à la prison. Comment vivre la séparation avec sa famille. Combat. Combat. Autrefois, à l'Action biblique, on a appelé les groupes de jeunes porteurs d'âme. Ça dit long. Avant d'appeler porteurs d'âme, on les appelait les milices. Mais ça dit long sur, finalement, la mentalité et l'activité. Parce que toutes les activités tournaient autour de confronter un monde perdu avec le message de Jésus-Christ. Et donc, on fait partie des milices, et après la Deuxième Guerre mondiale, on fait partie des porteurs d'âme. Mais aujourd'hui, on ne trouve pratiquement plus aucun camp d'évangélisation. On n'habitue plus, finalement, les générations qui nous suivent au combat. Et Dieu dit ici qu'il a laissé exprès en place des obstacles, des pays et des ennemis à conquérir uniquement pour que ceux qui n'ont pas vécu ou connu la guerre apprennent à combattre. Alors, si je devais expliquer les dérapages en Israël, je dirais de cette manière-là. Le compromis. Ceux qui, devant la difficulté de la consolidation, ont du mal à finalement ne pas baisser les bras. Abandonner la partie. Ont du mal à vivre avec cette tension, mais Dieu est avec moi, mais je suis encore dans un combat âpre. J'ai des fragilités, j'ai des vulnérabilités, il y a des emprises de l'ennemi dans ma vie, mais je vais continuer à combattre. Et si je ne le fais pas, pour la prochaine génération qui me suit, j'aurai une génération qui connaîtra l'Évangile et qui pourrait l'expliquer à n'importe qui, mais qui n'a pas vu Dieu à l'œuvre. Et ça produit une génération qui refuse le combat. Pour moi, c'est les raisons essentielles de ces dérapages. Je m'arrête un instant pour vous donner la possibilité, non de jeter les tomates ou les œufs, mais de réagir ou de poser l'une ou l'autre question là-dessus, parce que pour moi, c'est fondamental. Et sinon, on va tout de suite aborder les vidéos.
Chapitre 6.
Alors, nous lisons le début du chapitre 6, mais le récit de Gédéon va jusqu'à la fin du chapitre 8. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. C'est vrai, on peut imaginer, quand on est dans la pénurie, appauvri, on peut crier à l'Éternel, mais ça peut être aussi simplement par fatigue et lassitude. Probablement c'est le cas ici, parce que, verset 7, lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de vos oppresseurs, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Et ainsi, à partir du verset 11, nous avons donc l'appel de Gédéon. Alors, nous avons dit les raisons pour l'échec, c'est compromis, connaissance, combat. Encore allitération, hein, ça aide. Le compromis, absence de connaissance et le refus du combat. Maintenant, puisque vous allez le faire dans les jours qui viennent, étudier chaque récit des juges, quelle est la meilleure manière de les aborder. Et je vous propose finalement la réflexion suivante. Lorsque vous étudiez l'un des récits des juges, en tout premier lieu, à chaque fois, essayez de déterminer quelle est la situation en Israël du temps du juge. On sait qu'Israël fit à nouveau le mal. Ça, c'est donc l'introduction en matière. Mais quelle était la situation précise d'Israël du temps de tel ou tel juge? Ça, c'est la première chose à déterminer. Deuxième chose, qui est l'ennemi? Alors, on peut les citer. Il y a le roi de Mésopotamie, les Moabites, il y a les Cananéens, il y a les Madianites, Ammonites, Philistins, et ainsi de suite. C'est pas ça que je veux. Il faut savoir quelle est son identité, d'où il vient, quelle est sa stratégie. Et comme je l'ai dit hier, à l'époque, tous les ennemis d'Israël avaient finalement des divinités au nom desquelles ils combattaient. Il n'y avait rien de neutre. Et donc chaque ennemi venait avec ses croyances et ses valeurs qu'il voulait imposer. Même du temps de l'Empire romain, ce qui explique en grande partie finalement la croissance de l'Empire romain, c'était toute la politique religieuse. Parce que lorsqu'ils allaient dans un nouveau territoire, les Romains, d'une part, ils apprivoisaient leur divinité pour les intégrer à leur panthéon. En même temps, ils apportaient les divinités des autres territoires conquis et de surcroît, ils installaient le culte de l'empereur. De telle sorte que vous avez dans plusieurs villes de l'Empire romain de l'époque, depuis Auguste jusqu'à Trajan au moins, vous avez les temples dédiés aux empereurs et où un culte devait leur être adressé. Et donc, on utilisait la religion pour apprivoiser, neutraliser, et il y avait une forme de syncrétisme, pluralisme extraordinaire, parce que tous les combats étaient menés au nom d'une divinité. Par conséquent, il est important de savoir, par rapport aux ennemis dans le livre des juges, quelles étaient leurs croyances, valeurs, divinités, et comment ont-ils finalement imposé, transféré ces valeurs dans le peuple d'Israël. Parce qu'on lit régulièrement, ils servaient les Baals et les Astartés, ils servaient leurs dieux et leurs idoles, et ainsi de suite. Donc c'est régulier. En troisième lieu, qui est le juge ? Encore une fois, ses origines, son caractère, ses points forts, ses points plus fragiles. Et puis, en dernier lieu, là où c'est marqué, quel est le dénouement du récit ? Comment est-ce que la bataille, la victoire est remportée ? Et donc, on examine les combats. Et puis, en tout dernier lieu, quelles sont des possibles application à notre situation aujourd'hui. Bon, je vous dirai tout de suite et d'emblée, avant d'aller dans le texte de Gédéon, que je pense que tous les ennemis confrontés par Israël dans le livre des juges, qui finalement imposaient leurs valeurs, ont leur contrepartie aujourd'hui dans l'Église. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous allons voir par rapport à Madianite dans un instant. Mais que ce soit par rapport aux Moabites, Ammonites et d'autres, ils avaient des valeurs qu'ils imposaient à Israël, et ces mêmes valeurs nous sont communiquées aujourd'hui d'une autre manière. Parce qu'on n'a pas les Ammonites et les Moabites, mais les valeurs nous sont imposées encore aujourd'hui. Ce sont les ennemis perpétuels et pérennes de l'Église. Voilà donc une manière d'aborder ce livre des juges. Gédéon, en tout cas, en tout premier lieu, nous allons aborder donc la situation en Israël. Très rapidement, certaines remarques. La première, la durée de l'oppression. Le texte nous dit, pendant 7 ans, Madian remontait pour ravager le pays d'Israël. Chaque année, pendant 7 ans. Dans d'autres cas, j'ai dit hier, pour les Moabites et les Ammonites, c'est pendant 18 ans. Mais c'est toujours intéressant de voir la durée de l'oppression de l'ennemi. Mais ce que l'on remarque dans le texte, en début du chapitre 6, c'est la crainte qui dominait en Israël. Verset 2, c'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Ils ne vivaient plus dans leur maison. Israël, qui était appelé à posséder ce pays où coule le lait et le miel, Israël à qui Dieu avait dit peu de temps auparavant, « Tu remporteras les victoires, je suis avec toi », maintenant vit dans les tranchées, les cavernes et les montagnes. La crainte, la crainte. La première fois, je suis venu à OM en 1963, j'étais dans le nord-est de la France, dans les Ardennes, et puis pendant un mois, aux alentours de Verdun. Et Verdun était une ville qui m'a profondément marqué à l'époque. On est en 1963, à peine 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre. Et quand je suis arrivé dans cette ville, on faisait porte en porte, porte en porte, oui, parfois on faisait de porte en porte, mais le plus souvent, on faisait de taudis en taudis, de bidonville en bidonville. Et devant ces taudis, ces bidonvilles, j'étais tout étonné de trouver des voitures flambant neuves, de belles voitures, de telle sorte que j'ai posé la question à un moment donné, mais pourquoi vous habitez là-dedans ? Ah ! Première guerre mondiale, Verdun rasé, nos maisons complètement éliminées. Après, on a dit plus jamais cela. Et à peine, quelques 30 ans après, encore Deuxième guerre mondiale, Verdun, terrain de combat rasé. 1963, menace mondiale du communisme. Tout le monde redoutait que le communisme allait prendre le pouvoir. Et ces personnes disent, on préfère habiter ici, dans ces bidonvilles, parce que de toute manière, s'il y a une troisième guerre mondiale, on va être à nouveau évacué. Et donc, Israël vit dans la crainte, dans les montagnes, les tranchées et dans les cavernes. Ensuite, dit le texte, il y avait une pauvreté, verset 6, extrême, car le pays était ravagé, verset 4. Ils détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Alors, je pourrais aller rapidement un peu plus loin pour vous montrer ça. Voilà, juste pour l'instant. Alors, là où était Gédéon, était tout à fait au nord du territoire. Et, hop là, qu'est-ce que je fais là? Au secours! C'est par là. Qu'est-ce que je vais faire? Ah voilà. Ici dans le sud, vers Sinaï, c'était le territoire des Madianites. Et de l'autre côté du golfe d'Aqaba, l'Arabie saoudite actuelle, les Madianites. Les Madianites étaient là et là. Et chaque année, ils quittaient ce territoire et ils remontaient jusqu'au nord du pays d'Israël, au sud du lac de Galilée. Ils traversaient et ils descendaient ici vers Gaza, chaque année pendant 7 ans. Ça, c'est des kilomètres, des kilomètres. Ils ravageaient le pays, dit le texte. Donc, en arrière, la pauvreté et un pays ravagé. Ensuite, dès le départ, quand on voit Gédéon, à partir du verset 11, on constate finalement sa plainte auprès de Dieu, c'est qu'il n'y a plus aucune preuve tangible de ta présence. Nous avons entendu parler de toi, mais nous ne t'avons pas vu. Vous voyez l'importance de voir? Oui, nos pères nous ont raconté ce que tu as fait pour libérer le peuple d'Égypte. Mais nous, on n'a aucune preuve tangible de ta présence. C'est toute la question de voir Dieu à l'œuvre. Ensuite, une incompréhension totale devant les événements. Pourquoi est-ce que tu permets cela? Tu es le Dieu qui a fait des promesses à Abraham, Jacob, et ainsi de suite. Pourquoi tu as permis cela? Et nous avons dans ces versets 11 jusqu'au, pratiquement, jusqu'au verset 13, la plainte de Gédéon. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et c'est en particulier là, au verset 13, où nous lisons, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Cela ne vous est jamais arrivé de poser cette question. L'Éternel fut avec, mais il ne put. Nous, on ne pose peut-être pas la question dans ces termes-là, mais on pose la question dans ces termes-là. Comme j'ai dit, nous disons aussi combien souvent, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce deuil? Pourquoi cet enfant égaré qui ne suit pas le Seigneur alors qu'on a tenté, tant bien que mal, à lui communiquer les fondements de la foi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? C'est la question de Gédéon. Incompréhension. Et l'incompréhension, si elle n'est pas bien gérée, va tourner en incrédulité. Dieu ne nous explique pas tout. Mais puisque Dieu est sur le trône, il sait exactement ce qu'il fait, et il fait tout ce qui lui plaît, il n'est jamais pris au dépourvu, il ne fait pas de sieste. tout notre cheminement, devant tout ce que nous ne comprenons pas, c'est d'intégrer cela dans une confiance en Dieu, en disant « Dieu sait ce qu'il fait, et il me le montrera en temps voulu. » Mais ce qu'il va faire certainement, c'est de continuer son œuvre de consolidation et de transformation dans ma vie. Et moi, je peux vous dire la chose suivante. J'ai beaucoup plus appris dans la souffrance et dans la difficulté que dans les succès dans la vie chrétienne. J'ai connu les moments de succès. Campagne de Billy Graham en 1986, j'étais secrétaire général et nous avions des milliers de personnes qui ont répondu à l'appel. Henri Blocher est venu vers moi à la fin de cette campagne et il m'a entouré de ses bras en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil depuis la réforme. » Et ce succès était la peau de banane qui a conduit vers l'un de mes choix les plus erronés de toute ma vie. Et pourtant, dans ces choix erronés, on apprend à connaître aussi le projet de Dieu dans une vie. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Puisque l'Éternel est avec nous, il sait ce qu'il fait. Et il faut transformer notre question, parce que l'Éternel sait ce qu'il fait. Et puis, la crainte de Baal dépasse celle de Dieu. Et là, vous l'avez à partir donc du verset 14 jusqu'au verset 24. Où Gédéon, il est de la tribu de Manassé, mais il doit abattre l'autel qui est sur la propriété familiale. Ah, son papa, tribu de Manassé, deuxième génération, il avait sur son autel. Sur son terrain, un autel à Baal. Pourquoi Baal? Pour prier Baal, pour bénir ses récoltes et son bétail. Et Gédéon, dans la nuit où Dieu lui est apparu, il a abattu cet autel et a construit un autel à la gloire de l'Éternel. Verset 28. Et lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. Et on leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Père de Gédéon, les gens de la ville, de la tribu de Manassé, ils disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le poteau d'Achéra qui était dessus. Voilà les Israélites qui ont plus peur de Baal que de Dieu, à tel point qu'ils veulent faire tuer Gédéon, qui a détruit leur autel pour bâtir un autel à l'Éternel. Rêvez. Dramatique. Dramatique. Que le peuple de Dieu ait plus peur des idoles de ce monde que de Dieu. Crainte de l'homme, crainte de Dieu, encore une fois. Voilà quelques idées sur l'état de santé en Israël. Maintenant, quelques idées sur l'ennemi. Alors, je vous ai montré leur territoire. Le sud de la péninsule de Sinaï et de l'autre côté du golfe d'Aqaba. Madian était fils d'Abraham par Ketura. Après la mort de Sarah, Abraham s'est marié à nouveau et a eu plusieurs autres fils avec Ketura, dont Madian. Et Abraham, devant la naissance de ses autres fils, par crainte qu'il y ait conflit à un moment donné avec son fils Isaac, fils de la promesse, il a fait des cadeaux à tous les autres fils, donc enfants de Ketura, et il les a renvoyés loin de notre ami Isaac. Donc les Madianites avaient certainement un grief contre Israël à cause de ce phénomène d'avoir été renvoyé, racheté par de l'argent. Donc voici leurs origines, aussi fils d'Abraham, mais en même temps renvoyé par Abraham avec des présents pour ne pas embêter Israël. Alors là, c'est rapide, mais c'est juste pour vous dire que c'est la première fois dans l'histoire biblique que nous trouvons des chameaux comme monture de guerre, ou comme arme de guerre. Mais c'est normal. Quand on voit le territoire qu'ils devaient parcourir depuis le sud de la péninsule de Sinaï jusqu'au nord d'Israël et vers Gaza, l'aller-retour, mieux valait-il avoir des chameaux pour échapper à leurs ennemis. Donc, ils avaient choisi sagement leur monture pour ravager le pays d'Israël. Leur stratégie, nous l'avons déjà remarqué, mais leur stratégie était de détruire les productions du pays, de ravager le pays, d'appauvrir complètement le pays. Dans d'autres combats en Israël, on se rend compte que souvent la stratégie de l'ennemi, c'était occuper le territoire. Les Moabites ont voulu occuper le territoire depuis donc Jéricho. Ensuite, les Ammonites voulaient déposséder Israël de toute une partie de leur territoire pour l'occuper à sa place. Les Philistins, constamment, ont voulu occuper le territoire et ils ont infiltré le territoire de telle sorte qu'on ne voyait pas la différence entre Israël et les Philistins à la fin. Et on a appelé le pays désormais la Palestine, pays des Philistins. Alors les Madianites, non, ils n'ont pas voulu occuper le pays. Mais leur stratégie était astucieuse. Parce qu'occuper le pays, ça veut dire qu'il faut avoir en place toute une tactique, caserne, QG, armée, gouvernement, service public et tout le reste. Les Madianites, eux, ils arrivaient, détruisaient les productions du pays. On dit qu'une armée marche sur son ventre. Et quand on prive une armée de sa nourriture, on démoralise une armée. Vous savez, il y avait la première guerre du Golfe. Et il y avait une coalition qui a finalement donné lieu à beaucoup de livres sur la prophétie. Mais il y avait une coalition de tous les pays de l'Occident contre l'Irak. Et l'armée américaine, bien sûr, qui avait le commandement, avait finalement une alimentation diététique exceptionnelle. Tout était calculé. Vitamines, protéines, tout était calculé. C'était excellent, mais exécrable. Lyophilisé, tu ajoutes de l'eau, c'est comme le café Nescafé, hein. Tu ajoutes de l'eau et puis tu dis, oh mais c'est magnifique ce pot-au-feu. Hein. Mais c'était ça, les Américains. Les Français. Les Français en Irak. Alors eux, ils avaient, en plus que l'armée, leur cuistot. Ils avaient leur réfectoire. Et tous les jours, partaient de Paris, tous les jours, deux Boeing 747 remplis de nourriture. Frais. Et tout allait là-bas en Irak. Et les Français, ils avaient peut-être un équilibre, un régime moins équilibré. Mais qu'est-ce que c'était bon? Et les Américains, ils ont payé des milliers de dollars aux Français pour acheter leur nourriture. Une armée marche sur son ventre. Une armée privée de son alimentation est démoralisée. Ça, c'est la stratégie des Madianites. Ensuite, il n'y avait pas vraiment une influence idéologique chez les Madianites. Il n'y avait pas, disons, à notre connaissance, et je n'ai pas trouvé encore, bien que j'ai recherché, des croyances ou des valeurs particulières qu'ils transmettaient. Ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait alliance avec les Moabites et les filles Moabites pour séduire les garçons israélites lorsque les Moabites, sur la recommandation de Balaam, ont dit « il faut séduire ». Tu ne peux pas les maudire, Balaam, mais propose à Balak de les séduire, de séduire les garçons par les filles. Et les Madianites se sont mis avec les Moabites pour le faire. Mais je n'ai pas trouvé d'autres influences idéologiques. Là, nous avons déjà vu les cartes. Or, quelques photos pour vous réveiller. Donc, chameaux innombrables, eux et leurs chameaux. Temple madianite qu'on a trouvé à Timna, c'est plus vers le sud. Mais temple madianite, battre le froment. Mais vous pouvez imaginer cet exercice. Lorsque finalement on a fait la récolte ou on a tondu, on doit battre le froment. Et c'est comme ça qu'ils le faisaient à l'époque. Et voilà l'outil dont ils se servaient pour le faire. Mais Gédéon le faisait dans un pressoir, par crainte des Madianites. Et voici encore l'outil utilisé. Là, nous avons la source de Harod, on reviendra dans un instant, la colline et le mont Tabor. Maintenant, le juge. Alors, Gédéon, en début, fait face à l'idolâtrie. Il abat l'autel de Baal et il combat contre l'ennemi, les Madianites. Mais à partir du chapitre 8, il combat contre son peuple. Déjà, une violente querelle avec les Éphraïmites, on reviendra. Et ensuite, il combat avec les deux villes de Sukkot et de Peniel pour ensuite établir l'idolâtrie dans le pays. Ça a commencé finalement de manière familiale avec son père Joas. Il a abattu l'autel sur le territoire familial. Mais il a terminé sa vie en institutionnalisant l'idolâtrie, non seulement dans sa famille, mais pour tout Israël. C'est comme ça qu'il a terminé sa vie. Donc,
est-ce qu'on fait une pause?
Oui.
Est-ce qu'on fait une pause maintenant?
On peut faire une pause maintenant. Oui. J'en ai grandement besoin, donc c'est une bonne idée. Oui. Alors, combien de temps?
On démarre.
4 heures?
Oui.
C'est bon.
Pour faire une heure et demie de travail. Donc, on y va. Quelques mots sur le juge. En tout premier lieu, on a parlé de sa famille. Il se considérait comme étant le plus petit dans sa famille. C'était quand même une famille relativement aisée, avec des serviteurs, avec des employés, avec des terres, et une famille de la tribu, donc, de Manassé. Mais c'est le seul juge où nous avons autant de détails sur son caractère. Othniel, Ehud, Déborah, Jephthé ou Samson. Samson, on a beaucoup de détails sur ses activités, mais c'est sur Gédéon qu'on a le plus de détails sur son caractère. Donc je vous invite à davantage donc réfléchir à Gédéon dans ce sens-là. Deuxième chose par rapport à Gédéon, c'était un craintif. Alors, vous avez remarqué dans la lecture du texte que lorsque Dieu l'a appelé, là au verset 11, il battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Battre du froment au pressoir, c'est de la folie. Tu es dans un espace enclavé avec toute la poussière que cela peut engendrer. Mais il le faisait à l'abri des Madianites pour qu'ils ne voient pas cette poussière monter et pour que les Madianites ne viennent pas pour détruire ses productions. D'une certaine manière, donc, on peut dire que par crainte de l'intervention des Madianites, Gédéon, il battait le froment au pressoir. il démolit l'autel de Baal la nuit. Pas crainte, encore, des réactions de la maison de son père. Donc, il détruit cet autel pendant la nuit. Quand on voit la réaction le lendemain de sa famille et des Manassites, on peut comprendre. Ensuite, lorsque nous arrivons au chapitre 7, à partir du verset 10, à un moment donné, Gédéon a besoin d'avoir une rassurance complémentaire. Et Dieu lui dit de descendre dans le camp des Madianites. Et si tu as peur de descendre dans le camp des Madianites, descends avec ton serviteur Pourra. Et donc, Gédéon descend dans le camp des Madianites et il écoute aux abords d'une tente et il y a un Madianite qui raconte un rêve. Et suite à cela, Gédéon sait que c'est l'Éternel qui va remporter la victoire. Alors, j'ai dit un craintif. Il bat le froment au pressoir. Il abat l'autel pendant la nuit. Il va aux abords des tentes d'un Madianite. Mais la crainte est une émotion normale que Dieu nous a donnée pour nous avertir du danger. Et ce que l'on remarque dans le cas de Gédéon, c'est qu'à chaque fois, la crainte qu'il éprouvait ne l'a jamais empêché, dans les trois incidents que j'ai marqués, d'obéir à Dieu. Il a battu le froment. Il a détruit l'autel. Il est allé écouter ce rêve de Madianite. La crainte qui nous maîtrise est le problème. Nous, nous sommes appelés à maîtriser nos craintes. Et la crainte est normale devant les situations où il y a des dangers. J'étais au Sénégal avec les étudiants à un moment donné et il y avait un missionnaire sur place qui n'avait aucune notion de crainte. Et nous, nous avions l'autorisation de projeter le film Jésus sur la place publique. Mais le marabout et les autorités sont venus, religieuses, sont venus en disant « Non, vous ne pouvez pas faire cela, ça créait quand même une tension. » Donc j'ai dit à tous nos étudiants, toute l'équipe, on arrête, on ne va quand même pas provoquer inutilement. Et puis le missionnaire a dit, mais non, on peut continuer. J'ai dit, non, moi je suis responsable pour ces étudiants, je ne vais pas risquer une émeute avec ces étudiants. On peut aller dans le local, inviter les personnes pour acheter le film dans le local. Et donc on est rentré dans le local, mais ce missionnaire n'a pas su mieux que de prendre le projecteur et de projeter le film Jésus sur le mur blanc en face de la square, de la place publique. Et ce mur blanc n'était autre que le mosquée de la ville. Et en 15 jours, il a été expulsé du pays. La crainte nous avertit du danger. La crainte doit être gérée avec sagesse. Et parfois, on peut agir sans sagesse et ne pas respecter une crainte légitime que l'on peut avoir. Là encore, il faut peser ces choses dans le contexte d'une église avec les anciens. Maintenant, le moment précis de l'appel de Gédéon. Là, au verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer, et son fils Gédéon battait du froment dans le pressoir. » Il est à remarquer que l'ange de l'Éternel ne s'est pas présenté à un militaire aguerri. Il ne s'est pas présenté à un résistant contre les Madianites. Il s'est présenté à quelqu'un qui se préoccupait de l'essentiel. Dans un pays qui était ravagé par les Madianites, où finalement tout était détruit, Gédéon s'est préoccupé de l'essentiel. Il mettait de la nourriture de côté. Il le faisait à l'abri des Madianites. Et Dieu a appelé cet homme précisément au moment où il battit du froment, parce qu'à ce moment-là, il se préoccupait de l'essentiel. Il y a des moments où Dieu a appelé des guerriers, des militaires, des commandants. Mais dans le cas précis, il fallait quelqu'un qui se préoccupe de l'essentiel, du ravitaillement des troupes. Et c'est ce que fait Gédéon. Je vais passer sur sa vie spirituelle quasi inexistante, sinon pour répondre à une question récurrente dans le récit de Gédéon, où à un moment donné, par deux fois, il demande des signes. Et il demande de mettre devant l'Éternel un toison. Par deux fois, une première fois que la rosée tombe sur le toison et pas sur l'entourage, une autre fois sur l'entourage et pas sur le toison. Deuxième signe, attends ici jusqu'à ce que je t'apporte une offrande, et puis le feu de l'Éternel tombe sur l'offrande. La question est posée, a-t-on le droit de demander des signes à l'Éternel? La réponse est oui. Oui. Mais est-ce normatif? Non. Pourquoi est-ce que Gédéon avait besoin de ces signes? Mais à cause de son immaturité spirituelle. Il n'avait aucune connaissance de Dieu, aucune compréhension de ce qui se passait. Il vient de découvrir Dieu, et comme un jeune chrétien, il s'approche peut-être naïvement et demande des signes. Dieu a-t-il accordé des signes? Oui. Dieu peut-il accorder des signes? Est-ce une pratique normative et habituelle? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à marcher par la foi. Et Dieu veut nous faire progresser dans notre connaissance de sa personne pour que l'on ne marche pas par la vue, signe, mais par la foi. Dieu peut-il accorder le signe dans notre immaturité, dans nos débuts de vie chrétienne? Oui. Le fait-il habituellement? Non. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'on mûrisse dans notre foi de telle sorte que nous marchions par la foi, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui, devant la menace de ce jugement terrible, d'être jetés dans la fournaise ardente, ils puissent dire au roi Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous croirons en lui. Ça, c'est marcher par la foi. Et c'est l'objectif de Dieu dans notre marche quotidienne avec lui. Donc, les signes, oui, mais n'en faisons pas une doctrine. Surtout pas. Alors, allons-y un peu plus loin. Le déclin de Gédéon. Finalement, il y a une victoire extraordinaire sur les Madianites. Oh non, je dois quand même parler de cela. Le dénouement du récit, avant de parler du déclin. Le dénouement. Première chose, il fallait réduire l'armée. Je vais juste enlever ça parce que c'est pas juste. Je ne suis pas là dans le programme. Il fallait réduire l'armée. Il y avait combien de soldats avec Gédéon au départ? 32 000. Et l'Éternel a dit à Gédéon, puisque la gloire dans ce combat doit me revenir, cette armée est trop nombreuse. Il faut réduire cette armée. Et donc, tu vas dire en tout premier lieu que tous ceux qui ont peur, rentrent à la maison. sur les 32 000 qui étaient confrontés à une armée innombrable, dit le texte, combien de ces 32 000 avaient peur? 32 000. C'est normal. Mais sur les 32 000, 22 000 étaient dominés par la peur, par la crainte. Et lorsque vous avez dans une armée, et puis on le lit dans l'Exode, lorsque vous êtes dans une armée où quelques-uns sont paralysés ou dominés par la peur, c'est comme une contagion, ça se répand rapidement. Donc ceux qui sont dominés par la crainte, mieux vaut-il qu'ils rentrent à la maison. Ce n'est pas innocent comme tri, c'est délibéré. Y compris dans l'engagement, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu. Qui n'a pas peur, finalement, devant le témoignage? Qui n'a pas peur de confronter quelqu'un, finalement, avec un message complètement arriéré, que le salut dépend d'une vie sacrifiée par quelqu'un sur une croix il y a 2000 ans en Israël? Le salut dépend de ça. Et vous allez sur les campus universitaires aujourd'hui pour parler du salut qui dépend de cette mort il y a 2000 ans, et ils vous regardent comme si vous tombiez des nues ou de Mars. Qui n'a pas peur devant le témoignage? Tous nous avons peur lorsque nous sommes appelés à confronter un monde hostile. Et souvent, dans l'œuvre de Dieu, c'est justement cette crainte ou cette difficulté de surmonter cette crainte dans le témoignage qui empêche un témoignage viril et efficace auprès de nos citoyens. La crainte élimine beaucoup de personnes dans l'œuvre de Dieu. Mais ensuite, il y a deuxième tri. Même les 10 000 qui restent, c'est trop nombreux, je dirais. Tu vas les amener au bord de l'eau. Et là, en fonction de la manière de boire de l'eau, tu vas faire le tri. Ah. Est-ce que c'était arbitraire comme épreuve? Pas du tout. En fait, Dieu a dit à Gédéon, tu les amèneras au bord de l'eau. Certains, ils vont finalement se mettre à genoux pour boire. Et s'ils se mettent à genoux pour boire, comment est-ce qu'ils vont boire de l'eau? Non.
Comme un animal, ils vont lâcher.
Probablement se baisser, mettre la tête dans l'eau. D'autres, ils vont s'accroupir, et dit le texte, ils vont prendre la main dans leur main et laper de leur main. Donc il y en a qui vont laper de leur main. Ceux qui ne lapent pas de leur main et qui se mettent à genoux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mettre la tête dans l'eau. Ça, c'est les deux manières. Vous êtes d'accord ou pas?
Oui.
Ah, mais c'est pas mal, ça. Ah, voilà, c'est mieux. À l'époque, quelles étaient l'armure du temps de ces incidents? On n'avait pas maîtrisé l'art du forgeron en Israël. Ça, c'est venu beaucoup plus tard du temps de Salomon. Et donc, en armure, à l'époque, qu'est-ce qu'on avait? C'était le cuir. On utilisait la peau des bêtes. Et on mouillait les couches et on les transposait les unes sur les autres. Et on les moulait en cuirasse, en bouclier, en casque, pour protéger les cuisses et les bras. C'était à l'époque, donc vous allez dans l'histoire de l'Antiquité pour vérifier si vous voulez, mais on se protégeait avec le cuir. Vous vous mettiez à genoux et vous voulez donc boire de l'eau. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre votre tête dans l'eau sans enlever la cuirasse? Comment est-ce que vous allez vous mettre la tête dans l'eau sans mettre de côté le bouclier? Et comment est-ce que vous allez mettre votre tête dans l'eau sans que l'eau gonfle le casque sur votre tête et écrase ce qui n'existe pas là-dedans de toute manière? Et Dieu a dit, moi je prends les 300 qui finalement se sont accroupis et qui ont lapé de leur main comme lape le chien, parce que c'est ceux-là, manifestement, qui n'ont pas déposé leurs armes pour se rafraîchir. Les autres, ils ont dû se défaire de toute une partie de leur armure. Il n'y a rien d'arbitraire dans l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que nous avons Éphésiens 6. Prenez toutes les armes de Dieu, finalement, pour nous protéger et pour nous aider dans l'engagement dans le combat. De 32 000, Dieu a réduit l'armée à 300. Que ceux qui ont peur rentrent à la maison. Et que ceux qui finalement ne prennent pas toutes leurs armes de Dieu, ils me sont utiles et inutiles dans le combat. Voilà ce que dit le texte par cet incident. Cinq ou six choses à dire sur le dénouement. Une seule autre chose, parce que le temps presse. Le moment critique dans le dénouement du combat, c'est lorsque Gédéon est allé dans le camp des Madianites et il a écouté aux abords de la tente de Madianite et il a entendu un Madianite qui raconte son rêve à son camarade. « I had a dream », vous connaissez la phrase. Et de quoi a-t-il rêvé? De finalement Israël qui avait trouvé des armes, d'un commandant qui avait une stratégie exceptionnelle pour combattre les Madianites, d'une armée innombrable pour combattre contre Madian. De quoi a-t-il rêvé? Il a rêvé de nourriture. Il a vu une énorme pain d'orge rouler dans le camp des Madianites et renverser les tentes des Madianites. Bien sûr, c'est figuratif, mais il faut le situer dans l'ensemble du récit. Les Madianites ravageaient le pays, détruisaient les productions du pays. Dieu a appelé Gédéon au moment où il se préoccupait de la nourriture. Et Gédéon a compris, à partir du moment où le Madianite a raconté son rêve concernant ce pain d'orge qui roulait dans le camp, que ce que redoutaient les Madianites, plus que toute autre chose, c'est que Israël soit ravitaillé. Et Dieu a permis ce rêve. Dieu a permis ce rêve. Et donc Gédéon, à partir de ce rêve, est rentré dans le camp disant, ça y est, Dieu va nous accorder la victoire. Le point tournant dans le déroulement du combat, c'était ce rêve du Madianite. Et puis, peut-être, pour terminer, quelques mots sur le déclin de Gédéon. Attitude face à Éphraïm. Les chapitres 6 et 7, Dieu est présent dans la vie de Gédéon. Le chapitre 8, Dieu est absent ou tout au moins périphérique dans la vie de Gédéon. Et nous avons d'abord cet incident avec les Éphraïmites. Et les Éphraïmites viennent vers Gédéon. C'est une tribu belliqueuse. Et ils viennent vers Gédéon en disant, « Mais pourquoi tu ne nous as pas appelés plus tôt pour t'aider dans le combat ?» Et il y a eu une violente querelle entre Gédéon et les Éphraïmites. Comment est-ce que Gédéon a réagi devant cette querelle? Eh bien, ça vaut la peine juste de regarder là, finalement, en début du chapitre 8, verset 2. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait maintenant en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ?» Dieu a accordé à cet homme des signes pour dire « Je suis avec toi ». Dieu a dit à cet homme « Réduis l'armée à 300 finalement, parce que toute la gloire doit me revenir. Tu vas combattre contre les Madianites avec trompette et avec torche. » Pas d'armes. Les Madianites se sont retournés les uns contre les autres. Et Gédéon dit aux Éphraïmites, « Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous ?» Ils méprisent toute l'œuvre de Dieu accomplie par son intermédiaire. Au lieu finalement de reconnaître que Dieu, dans sa grâce, s'est servi de ces 300 hommes pour mettre les Madianites en fuite, il essaye de flatter les Éphraïmites. Oh, la vendange d'Abiézer, qu'est-ce en comparaison avec les Éphraïmites? Qu'ai-je fait, moi, en comparaison de vous? Il s'est trouvé devant une tribu belliqueuse et forte, et il a cédé à la crainte, et il a flatté les Éphraïmites. La crainte des hommes, finalement, a vaincu dans cet incident Gédéon. Deuxième incident, c'est avec les deux villes de Soukhot et de Penuel. Les deux villes se trouvent de l'autre côté du Jourdain, sur le chemin où battaient en retrait les Madianites. Il y avait 15 000 Madianites qui partaient en retrait. Et Gédéon les suivait avec les 300 hommes, dit le texte, fatigués, mais poursuivant toujours. 300 hommes, 15 000 Madianites. Et ils passent par la ville de Soukhot et de Penuel. Et Gédéon demande à ces deux villes israélites, « Donnez-nous des vivres. » Et les deux villes disent, « Non, 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 ils avaient tort. Ils avaient tort. » Mais ils disent non. Pourquoi? Mais nous, on a vu les 15 000 Madianites passer il y a quelques heures. Et toi, tu es là avec 300. Et si jamais les Madianites se retournent contre toi, toi, tu vas battre de retrait de l'autre côté du Jourdain, à nouveau. Et c'est nous qui serons sur le chemin des Madianites. Ils avaient tort, les habitants de Soukhot et de Penuel. Ils avaient tort. Mais on peut comprendre leur raisonnement. Mais Gédéon, au lieu de comprendre leur raisonnement, il s'est montré cruel et il les a punis vraiment sévèrement. Et c'est tout le récit au chapitre 8, à partir du verset 4, que vous pouvez lire pour vous-même. Mais nous avons là, dans le verset 7, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zeba et Tsalmouna, je vous châtierai avec des chardons du désert et avec des épines. » Et verset 13 jusqu'au verset 16, c'est ce qu'il fait. Et puis, avec les habitants de Penuel, il les tua en faisant tomber sur eux la tour de cette ville. Avec les Éphraïmites, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait en comparaison avec vous? Vous, vous avez finalement fait la majeure partie dans cette bataille. » Mais avec les habitants de Soukhot et de Penuel, deux petits villages, il s'est montré d'une cruauté extraordinaire. Flatteur avec les plus puissants, cruel avec les plus faibles. Et puis, finalement, et c'est là où je vais terminer, finalement, on voit le changement d'attitude de Gédéon devant le succès ou devant la popularité. Verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Sauvés de la main de Madian, alors Israël demande à Gédéon d'établir un genre de monarchie familiale. Domine sur nous, deviens finalement notre roi. Et Gédéon, il répond de façon très orthodoxe, « Je ne dominerai pas sur vous, ni mon fils non plus. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Amen, disent les évangéliques. mais ils n'ont rien compris du texte. Parce que Gédéon, c'est une réponse vraie, orthodoxe, mais il n'y avait aucune vérité. C'était totalement hypocrite. Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs indices dans le texte. Mais, verset 24, Gédéon le dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun un anneau de votre butin. » Et ils les ont donnés volontiers. Il a construit un éphod. Et avec cet éphod, il l'a mis dans sa ville natale, verset 27, à Ophra, où il devint l'objet de prostitution. Il faut voir la suite. Israël demande à Gédéon de devenir le leader avec ses fils après lui. Gédéon donne une réponse totalement orthodoxe. Non, non, non. Mais j'ai quand même une demande à vous faire. Donnez-moi une partie de votre butin. Et il construit avec ce butin une éphode qui dresse dans sa ville natale et qui devient l'objet de prostitution pour tout Israël. Alors, où sont les problèmes ? Il y en a plusieurs. Un, demander le butin est une prérogative de souverain. Un commandant militaire ne demande jamais de butin. Jamais. Il apporte finalement le butin au roi. Mais c'est seulement le roi qui a cette prérogative, le souverain qui a cette prérogative qui exige du butin. Gédéon l'exige, il le demande. Ensuite, nous avons là, au verset 30, Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. Un harem. Et la constitution d'un harem, dans le contexte de l'époque, c'était aussi une prérogative d'un roi, d'un souverain, pas d'un commandant militaire. Et puis, il est né cette idée, tout de suite, de la succession familiale, parce qu'Abimélech, au chapitre 9, verset 2, dites, je vous prie, à tous les notables de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Yerubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Autrement dit, cette idée de succession familiale avait été communiquée, transmise. Un juge ne devait pas, finalement, être succédé par son fils. Il était un commandant militaire pour une raison spécifique dans le projet de Dieu. Mais manifestement, Gédéon a dû transmettre à ses fils l'idée de cette succession, aidé par Israël qui le lui a demandé. Et Abimélech, le fils de Gédéon, a finalement bâti là-dessus en demandant « Mais est-ce qu'il vaut mieux que 70 fils de Gédéon dominent sur vous ou un seul, moi, à l'occurrence ?» Succession familiale, monarchie potentielle qui est déjà en cours. Et puis, au verset 20 du chapitre 8, il est question donc des chefs de Madianite qui doivent être tués. Il dit à Yéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira pas son épée parce qu'il avait peur. Il n'était encore qu'un jeune homme. Autrement dit, on constate que Gédéon, devant ces deux rois qui doivent être exterminés, il s'adresse à son fils. Mais c'est aussi une manière de transférer le bâton, le témoin, de transférer le pouvoir. Il demande à son fils aîné, Yéter, de tuer ces deux rois. C'est symboliquement une manière de dire « voici le successeur ». Ensuite, on peut voir la question que Gédéon pose au verset 18. Ces deux chefs madianites, Idéa Zéba à Tsalmouna, comment étaient les hommes qui vous avaient tués à Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Autrement dit, le comportement de Gédéon était un comportement d'un souverain. Comment étaient ces hommes que vous avez tués? Ah, mais ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Et voilà comment Gédéon répond là au verset 19. Ah, c'était mes frères, fils de ma mère. Autrement dit, il reconnaît implicitement qu'il avait un comportement de monarque, de souverain, dans tout le déroulement du récit. La dernière chose. Là, encore une fois, au verset 31, sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, auquel il donna le nom d'Abimelech. Gédéon avait 70 fils. Nous connaissons le nom de l'aîné et du cadet. Yéter, l'aîné, Yotam, le cadet. Nous ne savons pas si c'est la maman ou Gédéon qui a donné ce nom à ses deux fils. Par contre, c'est lui qui a donné le nom Abimelech à ce fils de sa concubine, Abimelech. Et Abimelech veut dire « mon père est roi ». Et le verbe « donner » dans le texte, c'est le verbe « établir » utilisé pour l'intronisation des souverains. Autrement dit, de par le fait qu'il a nommé ce fils Abimelech, mon père est roi, il reconnaît encore un phénomène de succession, de pouvoir et de monarchie. Au chapitre 8, Gédéon, il est flatteur avec les Éphraïmites, cruel avec Soukhot et Penuel. Devant le demande de devenir finalement le souverain, lui et ses fils après lui, il a une réponse tout à fait orthodoxe. Non, c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Mais, donne-nous un pas du doute. Hein. Et on constate finalement dans le déroulement du récit, le butin, prérogative de souverain. Harem, prérogative de souverain. Et tout ce qui suit dans ce récit, dans son comportement, dans sa façon d'être, c'est un comportement de quelqu'un qui aspire au pouvoir. Et qui finalement, comme le dit ce chapitre 8, il établit en Israël une idolâtrie nationale alors qu'il a commencé en détruisant une idolâtrie familiale. Il a bien commencé, Gédéon, mais il a mal terminé. Et dans l'histoire biblique, 80% des hommes qui sont mentionnés dans l'Écriture terminent mal ou moins bien que ce qu'ils ne pourraient terminer. Mal ou moins bien que ce qui ne pourrait terminer. C'est pour cette raison que nous avons besoin toujours d'être exhortés de finalement veiller sur notre comportement. Alors, une seule application de ce texte, il y en a 4 ou 5, mais une seule. La stratégie des Madianites, c'était quoi? C'était de priver le peuple de leur nourriture, de ravager le pays, de priver le peuple de leur ravitaillement. Et ça nous rappelle Actes 6:1, où l'Écriture, à un moment donné, devant une crise dans la jeune Église, reconnaît qu'il y a des problèmes. Problèmes de distribution des biens. Les veuves qui sont nées en dehors de la diaspora se plaignent parce qu'elles reçoivent moins que celles qui sont nées à l'intérieur des frontières d'Israël. Et donc, il y a un conflit ou une dispute à l'intérieur de l'Église. Et les apôtres, à un moment donné, disent, eh bien, maintenant, il nous faut vraiment déléguer des responsabilités. Il faut avoir des diacres. Parce que pour nous, nous devrions vaquer à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Le plus grand besoin, on en parlait à table avec Étienne, mais le plus grand besoin dans l'Église aujourd'hui, c'est pas de finance, c'est pas de stratégie, ce n'est pas de projet de multiplication. Le plus grand besoin dans l'Église, c'est des personnes qui alimentent et nourrissent le peuple avec la parole de Dieu. De quoi notre ennemi a-t-il peur? La seule chose dont il a peur, c'est ni de nos bâtiments, ni de nos finances, ni de notre stratégie. La seule chose dont il a peur, c'est la parole de Dieu. Et à partir du moment où le peuple de Dieu est nourri de la parole de Dieu, il est en panique. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais toutes choses. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Nous avons trop de pasteurs et responsables dans les églises qui sont des administrateurs, mais pas les dispensateurs de la parole de Dieu. Trop de personnes finalement qui s'occupent de la structure et pas suffisamment qui s'occupent de la parole. Et nous vivons aujourd'hui un temps d'analphabétisme biblique chronique, d'illettrisme biblique catastrophique. Un peuple de Dieu qui ne connaît même pas le béaba de l'Évangile. Et nous avons besoin que dans le peuple de Dieu aujourd'hui, nous ayons des personnes qui se préoccupent d'alimenter le peuple de Dieu, parce que ce que fait l'ennemi, c'est de nous priver de notre alimentation. Et ça revient au psaume 1 de ce matin. Alors, j'ai escamoté la vie de Gédéon, parce qu'il y a des pages et des pages encore. Mais prenez le plan, examinez les juges, et je pense que vous trouverez vraiment de quoi vous encourager dans cette étape de consolidation de votre vie chrétienne, cette étape de transformation. C'est un combat. C'est un combat. Mais tout ce livre des juges est un livre de salut qui doit finalement nous équiper pour le combat, pour que finalement l'œuvre de salut progresse dans notre vie. Or, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le salut, ce n'est pas ma conversion dans l'Écriture. Le salut, c'est conversion plus transformation. Je suis sauvé, je serai sauvé. Au dernier jour, le verdict final sera donné. Je suis racheté, je serai racheté. Le dernier jour, lorsque le verdict sera donné. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés par son sang. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été racheté pour le jour de la rédemption. Je suis racheté, je le sors. Le salut, c'est un processus. C'est la consolidation, c'est la transformation. Et c'est, tout au long de notre vie, un combat. Et l'un des ennemis les pires que nous allons confronter, c'est celui qui prive le peuple de Dieu de la parole de Dieu et de son alimentation. Voilà, quelques idées sur Gédéon. J'ai pris 10 minutes de trop, mais je me pardonne. Et on va prier. À moins que vous ayez une question brûlante.